Excellent réveil à tous, voici le journal de Maxime Fayolle. Bonjour Maxime.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le débat de la gestation pour autrui fait son apparition à l'Assemblée nationale. Si le gouvernement n'a pas pour projet de l'autoriser en France, il pourrait toutefois reconnaître les enfants nés d'une GPA à l'étranger, ce qui provoque l'ire de certains députés, notamment à droite.
Une manifestation à Paris aujourd'hui pour les personnels de la santé. Hier, le collectif Interurgence a reconduit la grève qui dure depuis 6 mois. Les propositions de la ministre Agnès Buzyn n'ont pas convaincu.
Un nouveau départ de poids dans le gouvernement Trump. Le conseiller à la sécurité John Bolton a été limogé hier. Les désaccords étaient nombreux, principalement sur la place des États-Unis dans le monde. Et dans une dizaine de minutes, Guillaume, la question du jour.
Eh bien Google, pourquoi le géant de l'Internet est-il dans le viseur ? De la justice américaine, on posera la question à François Delru. Il est chercheur en cyberdéfense et en droit international à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire.
C'est un dossier qui divise profondément les députés de tous bords. La GPA, la gestation pour autrui, a fait son apparition dans les discussions hier à l'Assemblée nationale. Le gouvernement envisage la reconnaissance juridique des enfants nés d'une GPA à l'étranger. De quoi enflammer les bancs de l'hémicycle hier, Stéphane Robert, alors que l'examen de la loi bioéthique est en cours en commission spéciale.
Il n'est pas question d'autoriser la GPA en France, a rappelé hier la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, en direction des députés à l'Assemblée.
La GPA est interdite en France, vous le savez, nous l'avons d'ailleurs réaffirmé avec force avec mes collègues en commission.
Pour autant, le gouvernement prépare une circulaire qui doit permettre d'accélérer la procédure de reconnaissance juridique des enfants nés par GPA à l'étranger. Il s'agit, comme la loi le permet aujourd'hui, de reconnaître la filiation de l'enfant avec son géniteur. Et puis pour l'autre parent, de faciliter la procédure d'adoption afin qu'elle dure le moins longtemps possible. Explication du député En Marche des Deux-Sèvres, Guillaume Chiche, co-responsable du texte à l'Assemblée.
On ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. Ces familles avec ces enfants nés de GPA à l'étranger, quand elles arrivent en France, elles sont dans une insécurité juridique parce qu'on ne reconnaît pas le lien de filiation. Ou on le reconnaît après des procédures judiciaires de plusieurs années. Il n'est plus acceptable que ça soit à la marge d'une procédure de plusieurs années. Ça doit être le plus rapidement possible. C'est tout le sens de la circulaire qui va être produite par l'exécutif gouvernemental.
Pour une partie de l'opposition, notamment pour le député Les Républicains de la Manche, Philippe Gosselin, cette disposition représente en réalité un pas supplémentaire vers la légalisation de la grossesse pour autrui.
Écoutez, moi je résume. Ça veut dire que, en fait, oui, en France, c'est interdit de pratiquer la GPA, mais allez n'importe où ailleurs. Revenez avec votre enfant et votre enfant, eh bien, on lui donnera la filiation d'intention. Donc, en réalité, on va arriver très vite à une reconnaissance de fait des mères porteuses. Donc non seulement il y a de l'hypocrisie, mais en plus on nous prend un peu pour des gentils bénés.
Officiellement, le texte de loi sur la bioéthique qui sera discuté en séance publique à l'Assemblée à compter du 23 septembre n'aborde pas la question de la GPA, la grossesse pour autrui.
Stéphane Robert, autre texte en discussion en ce moment à l'Assemblée, c'est la loi LOM, loi sur l'orientation des mobilités. L'idée étant de promouvoir des déplacements plus écologiques. Une idée mise à mal avec la disparition du train des primeurs entre Paris et Perpignan. Il permettait d'approvisionner le marché de Rungis avec des fruits et légumes venus d'Espagne et d'Occitanie. Le fret ferroviaire a été remplacé par des camions à leur choix, mais cela ne pourrait être que temporaire car un nouveau comité de pilotage a lieu aujourd'hui.
Il ne circule plus depuis la mi-juillet, mais tous les acteurs promettent que le train des primeurs, qui livrait tous les matins 350 tonnes de fruits et légumes à Rungis, roulera à nouveau au 1er novembre. Sur le papier, l'intention est de continuer à le faire circuler, mais dans la réalité, ces wagons frigorifiques sont en bout de course et aucune alternative, notamment commerciale, n'a pour l'instant été proposée par la SNCF. Parmi les acteurs les plus déterminés à défendre cette ligne de marchandises Perpignan-Paris, la région Occitanie, elle se dit prête à mettre au pot et souhaite que d'autres acteurs se penchent sur le sujet, notamment la filière bio, locale et la grande distribution, deux clients potentiels. Jean-Luc Giblin, vice-président de la région Occitanie en charge des transports.
Faire du ferroutage plutôt que du transport en camion, c'est évident et il faut le faire sur toutes les solutions. Et donc, le train des primeurs doit continuer et nous ambitionnons qu'il y en ait rapidement deux et non pas un seul. Je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, il y avait 4 trains. C'est quelque chose qui a existé et qui est possible. Donc nous sommes déterminés. Nous avons un interlocuteur du côté de l'État, en tout cas du ministère, un discours et des actes qui, au moment où on se parle, vont dans le bon sens.
Si au 1er novembre, ce train ne se remet pas à circuler, alors ce sera la preuve que les engagements écologiques du gouvernement tiennent du discours et non des actes, selon lui. Une position partagée par Europe Écologie Les Verts comme la CGT Cheminots.
Anne-Laure Chouin, on le voit donc par ces deux dossiers que sont les lois bioéthiques et sur la mobilité, que l'exécutif continue son train de réforme entamé il y a plus de 2 ans. Ce n'est d'ailleurs pas fini avec d'autres sujets dans les prochains mois, comme la refonte des retraites ou de l'audiovisuel public. Un programme qui est né avec la création du mouvement En Marche par Emmanuel Macron et dont il est légitime à mi-mandat de se poser la question de l'État. Une cinéaste a donc suivi plusieurs marcheurs bénévoles ainsi que des élus locaux qui tentent de faire vivre ce parti sur le terrain. Son film « Ça marche !» point d'exclamation et point d'interrogation sort ce mercredi. Anne Fauquemberg a pu visionner le long métrage de Camille de Casabianca en avant-première hier.
Je suis désolée, je suis coincée en bas, ça vous ennuierait pas de m'ouvrir s'il vous plaît ? Je fais un petit sondage sur l'Europe.
L'Europe comme fil conducteur pour ce documentaire. Un sujet cher à Camille de Casabianca qui lui permet de montrer ses bénévoles smartphones à la main, remplir les questionnaires qui nourriront les désormais fameuses fouilles de données, le data mining qu'En Marche a introduit en politique.
Je ne veux pas donner quelque chose de positif ou négatif, mais c'est très différent, c'est nouveau. Et voilà, il fallait en parler. Et en plus, j'ajoute que tout le monde est obsédé par Emmanuel Macron, qui est effectivement quelqu'un d'assez exceptionnel, mais il y a quand même, 420 000 marcheurs, et il n'y avait pas d'image de ça.
Un documentaire au cours duquel la crise des Gilets jaunes fait irruption avec son lot d'interrogations dans le mouvement.
J'ai appris une chose, quand les gens ils vous engueulent sur le marché, c'est qu'ils vous aiment encore. Quand ils vous disent rien quand vous donnez le tract, c'est que vous êtes perdu.
Et qui a régalé la cinéaste.
Parce que tout à coup, effectivement, il y a l'irruption, et puis les marcheurs sont un peu surpris, et ils disent, mais comment, attendez-nous, c'est nous les Gilets jaunes, c'est nous qui voulons changer la société. Et alors les autres disent, ah ben non, non. Donc il y a ce débat. C'est vrai que le film reste ouvert, la société est en mouvement.
À la sortie, Pierre Dodin, marcheur de la première heure, l'un des personnages du documentaire, digère la photographie.
Je trouvais que c'était vraiment très proche de ce qu'on était, dans les qualités, puis dans les défauts, dans le côté peut-être un petit peu par moment approximatif. Mais plein de gens sympas qui ont envie de faire des choses et qui se lancent. Quoi.
Un documentaire indépendant, distribué dans seulement une dizaine de salles en France, mais qui s'ouvriront pour l'occasion en ciné-débat.
Le reportage d'Anne Fauquemberg pour France Culture.
Eh bien, il est 7h07 précisément sur France Culture et c'est la suite du journal de Maxime Fayol. La grève dans les urgences va continuer, c'est ce qu'a décidé le collectif Interurgence hier.
Un vote à l'unanimité en Assemblée Générale. Les personnels de santé vont d'ailleurs se retrouver aujourd'hui à Paris pour une manifestation à l'appel de la CGT. Syndicats et collectifs estiment n'avoir pas été compris dans leurs revendications par le gouvernement. Ils souhaitent toujours plus de lits, plus de personnel. La crise des urgences est mise en exergue par cette grève qui dure depuis déjà 6 mois. Pourtant, les racines du mal sont plus anciennes, explique le sociologue de la santé François Danet. Pour lui, le système des urgences a touché ses limites à cause de l'hyperspécialisation de la médecine en France.
La source profonde, si vous voulez, c'est que quand on revient à l'histoire de la médecine et notamment à l'histoire de l'hôpital, la médecine, elle s'est fondée sur la spécialisation et notamment sur l'hyperspécialisation. Les dermatologues refusent de soigner des patients cardiologiques. Les rhumatologues refusent de soigner des patients orthopédiques. Un cardiologue refuse de faire un accouchement. Et un gynéco-obstétricien refuse de soigner un infarctus du myocarde. Voilà comment ça fonctionne. Donc ça crée ce qu'on pourrait appeler du reste. Le reste des problèmes non résolus ailleurs. Et le reste, ce sont les urgentistes qui s'en occupent. Mais le problème de cette dynamique, c'est qu'elle n'a que vocation à s'accroître. C'est-à-dire que plus ça va, plus il y a du reste. Puisque plus ça va, plus la médecine se spécialise. Et plus ça va, moins la médecine générale de ville est fournie en termes de personnel médical notamment. Et dans ce contexte-là, on arrive au bout du modèle actuellement, c'est-à-dire un phénomène de débordement que les urgentistes et les personnels paramédicaux ne peuvent plus assumer.
Le sociologue de la santé François Danet, entretien complet à retrouver sur notre site internet franceculture.fr. Aux États-Unis, Donald Trump a renvoyé son conseiller à la sécurité nationale John Bolton hier. C'est le 3e conseiller du mandat du président américain. De nombreux désaccords existaient entre les deux hommes. La décision n'est donc pas surprenante selon Laurence Nardon, chercheuse à l'IRIS.
En fait, les désaccords entre les deux hommes tiennent à une vision très différente qu'ils ont chacun du rôle des États-Unis dans le monde, de la politique étrangère américaine. puisqu'on a d'un côté Bolton qui est un véritable va-t-en-guerre, un nationaliste très agressif. On dit de lui, il n'a jamais vu une guerre qu'il n'avait pas envie de faire. Alors que de l'autre côté, Trump, lui, c'est un nationaliste de repli. Il n'a pas vraiment envie de faire la guerre à qui que ce soit. Il veut se concentrer sur l'Amérique. Bolton pousse, depuis qu'il est en poste, à une guerre contre l'Iran, des actions militaires préventives contre le pays. Alors qu'en réalité, Trump, même s'il déteste l'Iran, n'était pas du tout sur cette ligne. Il n'a pas du tout envie de commencer une nouvelle guerre contre un nouveau pays.
Est-ce que sur le dossier iranien, par exemple, son départ permet, entre guillemets, d'ouvrir une porte ?
Oui, parce qu'il n'y aura plus derrière Trump quelqu'un qui pousse à l'action en permanence. Donc, effectivement, si Trump fait des ouvertures à l'Iran, c'est un petit peu plus facile aujourd'hui.
La chercheuse à l'IRIS, Laurence Nardon, responsable du programme Amérique. Et de son côté, Benjamin Netanyahou promet, lui, d'annexer la vallée du Jourdain s'il remporte les élections législatives en Israël la semaine prochaine. Une décision largement critiquée par l'Arabie Saoudite, la Jordanie, la Turquie ou encore l'ONU, qui estime que cela pourrait porter atteinte au processus de paix dans la région. On y reviendra dans le prochain journal à 8h sur France Culture. Pour la première fois, le pape François évoque la possibilité d'un schisme dans l'Église catholique en évoquant les catholiques américains, des propos tenus dans l'avion papal au retour de son voyage en Afrique. Il s'agit d'une mise en garde, Bruce de Galzin, aux critiques qui se multiplient contre lui.
Il l'a répété à deux reprises, je n'ai pas peur des critiques, pas peur non plus d'un schisme, d'une séparation au sein même de l'Église catholique comme il y a 30 ans avec Mgr Lefebvre et les intégristes. Le pape montre ainsi que c'est bien lui, le chef de l'Église, il affirme son autorité alors qu'il est régulièrement attaqué par les Américains, notamment sur les questions morales, mais aussi au sein même de la curie où il tente de faire le ménage pour rendre son Église plus saine et proche des pauvres. François dénonce les idéologues, ceux qui ont des idées fixes comme changer de pape, dit-il, et estime être dans la lignée de ses prédécesseurs. Sur les questions sociales, je dis la même chose que Jean-Paul II, la même chose, je le copie. Certains disent, le pape est trop communiste, mais ils font entrer l'idéologie dans la doctrine. Et quand la doctrine ruisselle d'idéologie, il y a la possibilité d'un schisme. Pour le pape aujourd'hui, il y a trop d'écoles de rigidité dans l'Église. François pointe du doigt les prêtres et les évêques trop rigides. Selon lui, c'est parce qu'ils ont des problèmes et ils pourraient mal finir, autrement dit, quitter l'Église. Un défi lancé aux plus conservateurs. Un schisme avec une partie de l'Église américaine ne surprendrait pas certains prélats du Vatican.
Reportage de Bruce de Galzin. Le temps de ce mercredi, de la pluie sur les régions du Nord et un beau soleil au Sud. Des nuages ce matin au-dessus des Pyrénées. Les températures minimales vont de 7 à 11 degrés, Guillaume Hernet.